Frères et sœurs en Christ, bien le bonjour. Soyez les bienvenus, soyez accueillis dans la maison du Seigneur. Et merci d'être là, présent parmi nous. La semaine dernière, nous avons lu le début de cette réflexion que nous menons sur « En quel Jésus as-tu cru ?» Et dans un premier temps, Jésus a posé la question à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Et nous avons partagé ensemble plusieurs aspects, plusieurs traits de caractère de Jésus l'homme. Et puis la deuxième partie de ces versets, c'est Jésus qui s'adresse directement à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et là, il y a Simon-Pierre qui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, nous voyons Jésus, Dieu. Jésus, être divin. Pas seulement homme, mais avec quelque chose de plus. Alors, nous allons voir cette fois-ci des caractères divins de Jésus. Jésus est celui qui a guéri. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Et puis Jésus, donc là il y a eu un contact physique direct, mais Jésus aussi a guéri à distance. Dans Matthieu chapitre 8, verset 7, Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Puis au verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et au moment même où il prononçait ces paroles, le serviteur fut guéri. Et puis une chose extraordinaire qui, là on ne peut pas comparer à n'importe quel prophète, Jésus pardonne les péchés. Matthieu, chapitre 9, verset 2, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Seul Jésus pouvait prononcer ces paroles. Jésus en tant que Dieu. Matthieu, chapitre 9, verset 5 et 6, « Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus lit aussi dans les pensées. Dans Matthieu chapitre 9, verset 4, et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Là, la dimension de Jésus homme est dépassée. Là, on est Jésus l'être divin. Jésus est celui aussi qui intercède. Hébreux, chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et Jésus n'est pas la réincarnation d'une autre personne, d'un autre être humain. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu » et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Les deux étant étroitement liés. Mais Jésus, c'est aussi celui qui connaît le Père. Dans Matthieu 11, les versets 25 à 27, « En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et dans un autre évangile, Jean chapitre 14, versets 8 à 13, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne l'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu « Montre-nous le Père » ? Parce que là, ça rejoint les premiers versets que nous avons lus. « En qui as-tu cru ? » Uniquement en l'homme, Jésus, et ce qu'il a fait? Ou est-ce que tu as vu dans Jésus le Dieu vivant et éternel, le Dieu créateur? Voilà, en quel Jésus as-tu cru? Et à la fin de ces versets, il y a en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et puis rappelez-vous ce verset, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et puis Jésus est vivant. Apocalypse chapitre 1, verset 17-18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. » Nous avons vu la semaine dernière l'étape Jésus mort. Et Jésus dit, et voici, je suis vivant au siècle des siècles parce qu'il est ressuscité. Même si les hommes ont voulu faire croire qu'on avait volé le corps de Jésus, on est intervenu humainement pour dérober le corps de Jésus et le cacher comme un prophète mort. Mais Jésus, non, Jésus est ressuscité. Et Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et puis Jésus est sauveur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souvenez, c'est un des brigands qui lui dit ça. Jésus lui répondit, qu'est-ce qu'il lui répondit ? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Et puis, Jésus, c'était celui qui avait été annoncé, souvenez-vous. Souvenez-vous ce chapitre 53 d'Ésaïe. Je vous laisse en lecture, parce que nous n'aurons pas le temps de le lire là aujourd'hui. Mais Ésaïe avait annoncé 700 ans avant la venue de Jésus, sa venue, la venue de Jésus. Et puis ce qu'il allait faire, il dit, il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Et puis il annonce, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il annonce Jésus prophète, mais Jésus fils de Dieu et Jésus mort, mais Jésus ressuscité. Et puis souvenez-vous aussi, dans Matthieu chapitre 1er, les versets 18 à 23, voici de quelle manière a été annoncée la naissance de Jésus, une naissance miraculeuse. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comment aurait-on pu annoncer un prophète lambda venir et dire c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés? Comment un prophète aurait-il pu sauver le peuple de Dieu de ses péchés si ce n'est Dieu lui-même? Dieu seul peut pardonner les péchés. Et puis dans Matthieu 27, verset 10, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et puis dans Matthieu 3, les versets 16 à 18, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Certes, Jésus a reproché à ses contemporains de l'époque tous leurs défauts, tout ce qui les emmenait à la mort, mais il leur a montré quel était le chemin à suivre pour accéder à la vie éternelle. Et il dit, celui qui croit ne sera pas jugé. Mais celui qui ne veut pas croire, là il sera jugé. Et là j'ajoute une parenthèse. Prenons garde de ne pas nous laisser séduire par de faux miracles. Parce que vous savez qu'il y a des faux miracles. Et ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous dans Exode. Quand Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon pour que Pharaon laisse partir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. J'ai relevé quelques phrases, quelques extraits dans Exode chapitre 7. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton, sa verge, devant Pharaon et devant ce serviteur, et elle devint un serpent. Un morceau de bois mort est devenu un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Le monde des ténèbres est capable de faire aussi des miracles. Et là, ils jetèrent aussi leurs verges et elles devinrent des serpents aussi. Et puis un peu plus loin, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux des pharaons et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux furent changées en sang. Miracle de Dieu par ses serviteurs. Les poissons qui étaient dans les fleuves périrent. Le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Et le verset qui suit, c'est « Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. » Et ça, souvent, on oublie. On ne retient pas ces petites phrases-là. Ce n'est pas ce qui marque quand on regarde les 10 plaies d'Égypte. Et pourtant... Et puis, un peu plus loin, Moïse étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Et là aussi, les magiciens en firent autant. Voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus avant de conclure sur notre réflexion. Ne nous laissons pas trompés par de faux miracles. que nous puissions à chaque fois nous servir de la parole de Dieu pour savoir si ce qu'il nous est annoncé, si ce qu'il nous est montré vient vraiment de Dieu, afin que nous ne soyons pas, que nous ne laissions pas corrompre par ce que nous voyons et entendons. Et puis après avoir fermé cette parenthèse, après avoir montré le caractère divin de Jésus, Jésus laisse sa parole, cette parole, à ses serviteurs en disant « En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. » Est-ce que nous le croyons, ça? Ce n'est pas la seule parole d'un prophète, mais c'est la parole de Jésus, le divin. J'aimerais terminer un moment dans la prière autour de cette réflexion: en quel Jésus avons-nous cru? Est-ce que nous voulons pour nos vies et dans nos vies vivre le caractère divin de Jésus et pas nous contenter de l'image de cet homme d'il y a 2000 ans, capable de faire des miracles? Mais est-ce que nous voyons la grandeur de Dieu au travers de son œuvre et sa puissance? Et justement, je vais vous lire: lors de son premier voyage en Chine, partage le repas avec son hôte. Comme le temps est chaud et lourd, ils entr'ouvrent la porte. Un picotement à sa jambe l'inquiète et finit par empirer. Son voisin, consulté, est horrifié par sa jambe enflée et tachetée de rouge. Un rapide examen lui confirme son appréhension. Avez-vous quelque chose d'important à transmettre à votre épouse, lui dit-il. Dans 20 minutes, vous serez mort. Et inconscient auparavant. Mais pourquoi dois-je mourir? Un serpent très venimeux vous a mordu. Et si on n'intervient pas dans les 20 minutes, il sera trop tard. Le serpent, ayant flairé le riz, s'était glissé dans la pièce. Et comme Heinrich avait sans doute bougé, le reptile, effrayé, l'avait mordu, sans qu'il s'en aperçoive. Notre Dieu n'agit pas ainsi, proteste un autre missionnaire. Ce jeune frère vient ici pour le servir et dès la première nuit, il devrait mourir. Se jetant à genoux, il implore Dieu et invite les personnes rassemblées à l'extérieur à son association. L'intéressé lui-même proclame sa foi en la promesse du Seigneur, s'appuyant sur les versets que nous venons de lire et sur sa foi en Dieu. Ses douleurs sont de plus en plus intolérables. Heinrich continue à crier au Seigneur, prêt à perdre connaissance. Le lendemain, il se réveille. Il s'interroge. Pourquoi ai-je gardé mon pantalon? Puis tout à coup, il se souvient de tout et constate au miracle que sa jambe est guérie. Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui, à condition que nous n'ayons pas seulement cru en Jésus qui, lui, faisait des miracles quand il était là, et puis quand il est parti, ben, il n'y a plus de miracles. Or, Jésus nous a laissé cette parole comme quoi, en mon nom, celui qui croiront feront des miracles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.